Et si je vous posais la question suivante, est-ce que vous avez fait votre testament? Hey, là, vous allez dire, lâche-moi avec ça. Je veux dire, c'est pas pour demain la veille. Voyons donc, ça sert à quoi? De toute façon, j'ai pas grand-chose. Ouais, mais tu sais, j'ai des héritiers. Je suis pas sûr que j'en ai. Attention, la liberté de tester, c'est total dans notre système à nous. C'est pas la même chose partout. Mais faire votre testament, là, c'est une liberté. Vous pouvez décider ce que vous voulez. Et si vous ne faites pas de testament, ben la loi prévoit comment vos héritiers vont recevoir ce que vous avez et ce qui vous reste après votre décès. Si on parle de ça aujourd'hui, c'est parce que j'ai vu une nouvelle qui m'a fait sourire. C'est une grand-mère qui a décidé de déshériter ses trois petites filles, à trois petits-enfants. Elle a décidé de les déshériter, entre autres une, parce que elle se faisait tatouer. Elle avait des tatouages. Puis elle haïssait bien ça, la grand-mère. Fait qu'elle dit, si tu as des tatouages, c'est sûr, je te déshérite. Alors, les deux autres filles, par solidarité, on dit, nous aussi, on va se faire tatouer. Ça fait que comme ça, elle va être mal prise, grand-maman, puis on va pouvoir se partager les choses. Alors, la grand-mère meurt. Celle qui est tatouée, évidemment, n'hérite pas. La deuxième, qui s'est faite tatouer par solidarité pour sa sœur, elle n'hérite pas. Mais la troisième a dit, « Ah, ah, moi, je n'ai pas suivi la solidarité. Je ne me suis pas fait tatouer, contrairement à ce que je vous avais promis. » Fait qu'elle a ramassé le pactole au complet. C'est peut-être une blague, c'est pas une blague quand ça nous arrive. Avez-vous déjà connu le problème de faire lire un testament puis de savoir que vous héritez pas, qu'un tel vous pensiez pas mais qui hérite et que quelqu'un qui est un illustre inconnu fait partie également des dernières volontés du décédé? C'est toutes sortes de choses qui peuvent se produire. Maître David Delande, qui est notaire, en a vu d'autres, il est avec nous. Bonjour, Maître Delande.
Bonjour, Jean-Luc, comment allez-vous?
Bien, merci. Bon, avant de parler des anecdotes et des choses un peu inusitées que vous avez pu voir au cours de votre carrière dans le domaine testamentaire, parlons des testaments. Si je meurs sans testament, comment ça va se faire pour ce que j'ai à donner en héritage?
Bien, c'est vraiment, comme vous l'avez dit en introduction, c'est vraiment le Code civil qui détermine. Si la personne ne daigne pas faire elle-même indiquer ses volontés, bien là, on va aller selon est-ce qu'elle est mariée ou en union de fait, ou est-ce qu'elle a des enfants ou pas. Et le problème de nos conjoints de fait, qui se pensent encore protégés, malheureusement, on ne l'est pas. Hein. Ce qu'on appelle l'union libre, les conjoints de fait, malgré tout ce qu'on a pu entendre ces dernières années, que ce soit avec les cas de jurisprudence et Éric et Lola, ça fait déjà longtemps qu'on a entendu ça, ces histoires-là, mais les conjoints de fait ne sont pas protégés au sens du Code civil. Donc, quand on ne fait pas de testament, puis combien il y en a de gens au Québec qui sont en situation d'union libre, conjoints de fait, bien, ils ne sont pas protégés s'ils n'ont pas fait de testament. Alors, écoutez, rapidement, c'est si on est marié, bien là, c'est un tiers au conjoint de marié, deux tiers aux enfants s'il y a des enfants, si on a... En réalité, si on a des enfants, là, ça, au moins, eux sont protégés. Tu sais, si vous décédez sans testament et que vous avez des enfants, ce sont eux qui vont hériter de tout.
C'est pas nécessairement le conjoint ou la conjointe de fait.
Ah, certainement pas. Conjoint de fait n'hérite pas, absolument pas, à moins qu'on ait fait un testament ou une clause testamentaire en sa faveur. Le conjoint marié, là, c'est une autre chose, là, mais je vous parle de la situation de beaucoup de Québécois qui sont en union de fait et qui ont des enfants. Ben, oh, la surprise, c'est que arrive le décès subi de l'un ou de l'autre, ben, finalement, c'est les enfants de 2 ans, 4 ans et 6 ans qui vont se retrouver copropriétaires avec vous de la maison que vous aviez avec votre conjointe ou votre conjoint qui est tout à coup décédé. Écoutez, ça n'a pas de bon sens et ça, c'est la grosse surprise. Ça, c'est vraiment dramatique, ces situations-là, et on le voit très souvent. Malheureusement, les conjoints de fait là, sont très mal protégés.
De là, l'avantage de revenir les deux pieds sur la terre et de se dire il faut penser à ces éventualités-là, parce qu'on peut mettre des gens dans le trouble post-mortem.
C'est épouvantable, épouvantable. Et ça, c'est vraiment trop fréquent, les situations de décès sans testament ou de vieux testaments pas modifiés aussi. Ça, c'est une chose très, très importante pour nos auditeurs qui nous écoutent. Certains d'entre eux ont déjà fait leur testament, ils l'ont fait avec un notaire, bien, je les en félicite. Sauf que si ça fait 20 ans, 30 ans que vous l'avez fait, bien, ça se peut que votre situation ait évolué. Il faut vraiment relire ces documents-là pour s'assurer que ça respecte bien vos volontés.
C'est un document qu'il faut mettre à jour avec l'évolution de notre vie.
Ah, c'est... tout à fait, tout à fait. Parce que nos gens, les gens qu'on côtoie, on le sait, hein, dans les meilleures familles, souvent on peut dire, j'avais nommé, les enfants avaient 2 ans et 4 ans quand j'ai fait mon testament, j'avais nommé le beau-frère parce que je trouvais qu'il était bon en chiffres, et tout à coup, 20 ans plus tard, c'est plus le même beau-frère. Ça arrive dans les situations. Et donc, le
on
testament...
On
ne
voudrait
qui
pas
nommait...
que l'ex-beau-frère vienne mêler des affaires de la nouvelle famille.
Ben oui. Alors, je fais des blagues avec ça, mais malheureusement, c'est des situations qu'on rencontre. Donc ça, mettre à jour nos testaments, faire un testament, puis c'est sûr qu'on peut faire ça soi-même, là. On a le droit au Québec de faire un testament holographe à la main, mais c'est beaucoup plus risqué, et c'est ce qui amène souvent le problème de clauses un peu particulières. Là,
est-ce que quand je fais mon testament ou quelqu'un fait son testament, il peut faire hériter qui il veut et comme il veut?
Oui, tout à fait. Encore là, vous l'avez bien présenté en disant la liberté illimitée de tester. On a ça au Québec. On a le droit de léguer nos biens à qui on veut. Sauf qu'écoutez, s'il y a des certaines réserves, ben évidemment, si on est marié, et là je dis bien marié, ou unis civilement. Et là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais unis civilement, c'est pas la même chose que conjoint de fait, union libre. Là, c'est quelque chose de très, très particulier. Mmh. Ceux qui sont unis civilement le savent. Mais si on est marié, on ne pourrait pas léguer tous nos biens sans... Il y a toujours une réserve. Là, dans le sens qu'on a le droit de léguer tous nos biens, mais il y a toujours le patrimoine familial qui va s'appliquer pour protéger le conjoint.
Et qui prévaut à toute autre disposition.
Oui. Le patrimoine familial, ça, à moins qu'on lui ait renoncé, ben lui, il va s'appliquer. Mais le patrimoine familial, si on embarque là-dedans, ben évidemment, c'est pas tous les biens. Le patrimoine familial, c'est la résidence, les meubles, les biens servant au déplacement de la famille, enfin, les fonds de pension arrière, là. Mais quelqu'un peut très bien décéder juste avec un compte de banque, puis être locataire, puis en tout cas. Donc, tous ces biens iraient à quelqu'un d'autre, le conjoint n'aurait rien. Mais, règle générale, les conjoints mariés, grâce au patrimoine familial, ont quand même une protection. Mais outre ça, on peut effectivement léguer tous nos biens à qui on veut. Encore là, j'ai peut-être une petite réserve, c'est que si on est une personne âgée, par exemple, on vit dans un centre, il y a eu des situations, là, on a vraiment exclu la situation des aidants, pas les aidants naturels, mais les gens qui travaillent là, dans les centres comme ça, là, parce que par le passé, il y a pu y avoir des situations où ces gens-là, il y a un testament qui était fait en leur faveur, bien évidemment, eux, on ne peut pas leur léguer, là, s'ils travaillent. Là,
Prenons un exemple. Est-ce qu'on peut contester? Je me sens lésé de ne pas avoir hérité. Est-ce que je peux contester le testament?
On peut toujours contester, et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'il y en a tellement de cas de contestation, mais la pente est dure à monter, là. Surtout si c'est un testament notarié, parce que normalement, le notaire va être là pour vous conseiller adéquatement lorsque vous allez le rédiger, pour éviter de faire des erreurs. Mais des testaments holographes...
Ouais. Oui. Prenons un scénario, OK? Ma mère, j'invente ça. Ma mère est morte, mon père est survivant à ça. Il y a une personne, dame de compagnie, qui vient l'aider parce que c'est vieux jour, etc., etc. Puis là, mon père, dans sa tête, il pense encore qu'il est bon, fait qu'il tombe en amour. Ouais. Et ouais. Puis, marie l'aide à domicile. Uh-huh. Et puis, il a fait hériter de 50 % de ses avoirs. Moi, je me ramasse, gros gens comme par devant, je suis le fils. Est-ce que je peux contester le testament? Dire, il filait pas bien, fait que c'est pas sûr qu'il était en pleine connaissance.
Exactement. C'est sur cette base-là que vous pourriez contester, là, sur le fait qu'il n'avait plus ses capacités mentales, il était inapte, il a peut-être souffert de ce qu'on appelle de captation, il a été forcé, mais c'est tout un contrat que vous avez là pour faire, surtout s'il a eu pris le temps de marier la dame, et il a fait ça donc quelques années plus tard, il est décédé, mais vous avez le droit de contester, mais c'est loin d'être sûr que vous allez l'emporter, okay. Parce qu'il faut vraiment avoir un dossier très très clair que la personne souffrait, je sais pas moi, d'Alzheimer,
okay. Je comprends.
Elle a subi des... Okay.
Non, mais je prends tous les scénarios. Tu sais, j'en ai vu d'autres. Des fois, le gars, il dit, bon, ben moi, ça va être mon chien Fido qui va hériter. Faire hériter un chien, ça n'a pas de bon sens, là. C'est-tu vrai, ça?
Non. Ben, c'est en sens que s'il y en a qui le font, mais évidemment, à ce moment-là...
Honnêtement?
Non, mais on voit ça. On a vu, il y a eu un cas là, qui est sorti à un moment donné. Mais évidemment, le chien, c'est une question de temps. Il hérite pas longtemps, là, dans le sens que c'est vraiment... c'est des situations... C'est tellement exagéré, là, puis...
Mais ça arrive.
Ça n'a pas d'enfant. Ben, il y a des... On a vu ça, mais évidemment, c'est contesté par la famille, puis finalement, c'est rare que ça dure très, très longtemps, là, la vie d'un chien, là.
Okay.
Alors, mais il y a des fois qu'on s'essaye à faire des choses, là, un peu spéciales, puis les legs, c'est sûr que aussi les gens qui contestent des testaments en se disant, ben, il m'avait dit que j'hériterais de lui. Hein, ça fait des années, là, il m'avait dit, mais ça, des promesses d'hériter, ça, malheureusement,
ça marche
il y a
pas.
Beaucoup de gens. Ben non, c'est pas parce que la personne vous avait promis, puis elle vous vous a eu peut-être pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, vous l'avez aidé, etc. Puis finalement, ben, il décède, puis il a légué ça à quelqu'un d'autre. Vous avez beau essayer de contester, mais les chances de l'emporter, parce qu'on a la liberté illimitée de tester. Donc, on a le droit de léguer nos biens à qui on veut. Mais encore une fois, je mets une réserve là, pour ce qui est du conjoint marié et même des enfants mineurs, là, parce qu'il y a aujourd'hui la survie de l'obligation alimentaire. Là, il y aurait un petit montant qui pourrait être accordé.
C'est l'occasion de chicanes de famille épouvantables, ça.
C'est malheureux. Puis souvent, là, c'est pas les successions les plus grosses. C'est pas nécessairement les plus grosses. Des fois, c'est 20 000, 30 000, 50 000 et ça va se battre devant les tribunaux. Puis c'est pas long que les avocats vont finalement l'empocher, le 50 000 de la succession. Là.
Ça peut être une montre ou bien la bague de mariage à un moment.
Ah, c'est vraiment triste. Alors, c'est bien, bien important quand vous faites, si vous faites votre testament vous-même, vous n'avez pas voulu le faire par un notaire, avec un notaire, ou vos moyens ne vous le permettent pas, mais en tout cas, ça vaut des fois la peine là, de
faire des petites économies.
Ben, je pense que oui, mais enfin, faites attention aux termes que vous utilisez. Il y a des protections quand même, là, dans le sens qu'on ne peut pas mettre de clauses illégales ou contraires à l'ordre public. Celle qui me vient en tête, là, c'est qu'à un moment donné, quelqu'un qui avait écrit « Je lègue tout à ma fille à condition qu'elle divorce de son imbécile de mari. » Ben, une affaire comme ça, ça c'est peut-être pas, ça, votre intention à vous, le père, vous vous dites, regarde, je laisse tout si elle se divorce, là, mais on ne peut pas obliger quelqu'un à faire un choix comme ça de divorcer, sauf qu'on a peut-être passé un message par ce testament-là, là, mais la jeune fille va pouvoir hériter sans avoir à divorcer. Là. La condition va tomber parce qu'elle est contre l'ordre public.
Ça, je comprends parce que c'est tellement gros que tu ne peux pas gérer la vie des autres une fois que tu n'es plus là. Tu as peut-être eu de la misère à gérer pendant que tu y étais, ça fait que tu ne peux pas te reprendre. Mais l'autre idée, c'est que, est-ce qu'on peut mettre des conditions au fait de dire tu pourras profiter de l'héritage si tu gardes le chalet?
Ben oui, parce qu'on peut mettre des conditions qui, si c'est pas contraire à l'ordre public, à charge, je te lègue, à charge par toi de faire. Puis ça me rappelle des vieilles clauses, parce que j'avais puisé dans mes affaires. J'ai dit, moi, sortir une vieille affaire. Puis dans le temps des donations, hein, les parents qui donnaient la ferme à l'aîné, puis qui disaient, hey, je te donne la ferme, à charge par toi de procurer aux parents une vache qui ne meurt pas, un cochon raisonnable, puis de nous charroyer à la messe tous les dimanches. Ce sont des conditions qui étaient dans les donations. C'était à l'époque assez courant, mais aujourd'hui, donc, ces conditions-là, ben, de dire je te lègue le chalet ou à la condition que tu l'entretiennes, on peut mettre des conditions, autant que ce soit pour contre, comme je vous dis, l'ordre public ou les bonnes mœurs. On n'a pas de problème. Ces conditions-là, on les voit.
Avez-vous d'autres cas drôles?
Probablement que les auditeurs vont peut-être s'en souvenir, mais il y a plusieurs années, on avait eu la situation de la vieille tante là, qui avait fait un testament puis qui avait dit, moi, je lègue tout à certains neveux, puis l'autre famille de neveux, c'est à ceux qui se présenteront à mes funérailles. Oh. Ça, là, c'était assez spécial. Là. Et elle avait bien indiqué dans son testament qu'il n'était pas question que le testament soit lu, évidemment, avant ou soit connu. Le liquidateur n'avait pas le droit de faire part de tout ça, mais le liquidateur avait bien agi, avait avisé tout le monde du décès de la vieille tante. Je pense qu'une nièce qui était à l'étranger qui n'avait pas pu être avisée, mais tous les autres avaient été avisés et pas un du groupe de neveux qu'elle avait ciblé, là, pas un qui s'était présenté au funérail. Évidemment, après, la succession a été réglée, puis ils n'ont pas hérité. Donc, ils ont contesté en disant, mais ça ne va pas d'allure, ça, voyons donc, si on avait su, on serait allé, puis tata. Mais non, c'était une condition qui était, le tribunal a considéré que c'était pas impossible à réaliser. Ils auraient pu se présenter au funérail.
Juste une curiosité, vous n'avez pas eu jamais un cas de mononcle riche des États, là, qui meurt, puis que personne ne savait que le mononcle riche existait, puis qu'il y avait bien de l'argent, puis qu'il
est arrivé. Ouais, il est arrivé des situations, oui. À un moment donné, on a eu un dossier où la personne n'avait pas fait de testament, et un vieux, une personne là, sans enfant, puis on est obligé de faire des recherches presque avec un généalogiste pour retrouver la famille. Il y avait, je pense, 65 personnes qui étaient en droit d'hériter selon les règles du Code civil.
Ça valait sa peine ou s'il y avait pouvait se payer
ben, il y avait légué. Ouais, non, il y avait légué à peu près, ben, pas légué, mais il y avait dans son actif à peu près 300 000. Mais ce qui est particulier, c'est quand on va avec les règles du Code civil, c'est qu'on y va par souche, puis par tranche de famille, là, la fesse gauche, la fesse droite. Okay. Donc, il y avait certaines personnes qui avaient hérité, mettons, de 15 000 $, d'autres avaient hérité de 300 pièces, mais ça dépendait de quel côté vous étiez dans la famille. Mais ça, c'était assez particulier, parce que tous ces gens-là, là, les 65 personnes, étaient très surprise d'hériter du mandat.
Puis c'est ça. Puis si vous n'existez plus, c'est peut-être les enfants de la cousine qui avaient le droit d'hériter.
Exactement. Ah, tout à fait. Le Code civil est très clair là-dessus. Là. C'est que si vous n'êtes pas là, dépendant de l'ordre, dépendant si vous êtes un privilégié, comme on appelle, parce qu'il y a des termes juridiques, mais qui font que peut-être que vous allez être un très proche ou très loin dans la chaîne, mais vous avez des chances d'hériter si votre père ou mère n'était pas là, puis c'est lui qui était parent avec le défunt. En tout cas, c'est vraiment intéressant quand on arrive dans des situations comme ça, là. On envoie des spéciales. Alors,
Les vertes et des pommes, tout à fait. La nature humaine reprend le dessus assez rapidement.
Ouais. Mais donc, le conseil à donner à nos auditeurs, c'est ça vaut la peine d'aller voir un notaire se faire conseiller. D'autres clauses, là, tu sais, des fois, des clauses imprécises. Les gens font leur testament eux-mêmes, puis ils vont dire, je sais pas, moi, je lègue tout mon argent personnel à un tel, puis telle autre affaire à un tel. Mon argent personnel. Il y a eu un cas de jurisprudence. C'est quoi, effectivement? C'est quoi que vous entendez par là? C'est-tu juste ce que vous avez dans vos poches au moment du décès? C'est-tu dans le compte de banque? C'est-tu des certificats de dépôt? Alors, l'utilisation de termes, des fois, est très dangereux. D'autres affaires, c'est que je lègue ma Toyota Corolla à telle personne. Puis au moment de votre décès, vous avez une Honda.
C'est plus une Corolla.
Ben oui, on fait quoi? Alors, c'est des exemples. Simplistes, mais des fois, les gens, ils pensent pas. Puis ils veulent être trop précis. Et c'est très, très dangereux.
David Dolan, notaire, merci beaucoup de nous avoir expliqué cela. Et avec les exemples un peu cocasses, ça démontre l'importance justement de le faire et non pas de parler tristement de la vie de passé, de vie à trépas pour ceux qui survivent. Merci bien.
Ça fait plaisir.
Salut bien, David Dolan, qui est notaire.